le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. France Inter,
première radio de France.
Et je tenais à remercier l'excellente traduction ce matin de Robert Wolfenstein, toujours aussi bon, excellent.
On l'appelle Bob dans le métier.
Oui, Bob. Robert Wolfenstein. Quel est votre invité ce matin?
On l'appelle Alex dans le métier. C'est Alex Lutz pour le tableau volé, un superbe film de Pascal Bonitzer.
Bonne émission, Nagui. 11h20.
On vous appelle Ali dans le métier.
Il paraît. C'est mon pseudo. Les toutes dernières informations avec Laetitia Gaillet.
L'État ne coupera pas sa subvention à Sciences Po Paris. La ministre de l'Enseignement supérieur, Taillot, répond ce matin à l'annonce hier de la région Île-de-France qui, elle, a décidé de la suspendre, soit 1 million d'euros. La présidente LR de la région, Valérie Pécresse, justifie sa décision par les blocages et les mobilisations de ces derniers jours. L'État donne de son côté chaque année 75 millions d'euros à Sciences Po Paris. Mathilde Panot et Rima Hassan sont entendues par la police ce matin à Paris. Les insoumis sont interrogés dans le cadre de l'enquête pour apologie du terrorisme. C'est lié à leurs propos sur la guerre entre Israël et le Hamas. Plusieurs centaines de personnes sont venues apporter leur soutien ce matin près du siège de la police judiciaire de Paris. Un homme de 36 ans a été interpellé ce matin à Londres. Il est soupçonné d'avoir attaqué des passants avec une épée. Plusieurs personnes ont été blessées. Selon la police de Londres, cette agression ne semble pas liée au terrorisme. Les trois usines de Stellantis paralysées en France et au Royaume-Uni par la grève chez l'équipementier Emma France vont rouvrir jeudi pour celle de Poissy dans les Yvelines, assure le constructeur automobile ce matin, et le 7 mai pour les deux autres. Elles sont à l'arrêt depuis en fait une semaine. La grève chez Emma France, ancienne usine PSA en Seine-Saint-Denis, dure depuis la mi-avril. Les 180 salariés craignent une fermeture du site. Emma France fournit actuellement des pièces de carrosserie à Stellantis. L'inflation continue de ralentir en France. Au mois d'avril, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% par rapport à avril 2023. Selon l'INSEE, ce matin, ce ralentissement s'explique en partie par le ralentissement des prix de l'alimentation. Et dans les livraisons mensuelles, voire trimestrielles de l'INSEE, on apprend aussi que l'activité économique de la France déjoue les pronostics. Elle a progressé de 0,2% au premier trimestre. La consommation des ménages semble repartie, alors que l'INSEE prévoyait au contraire une stagnation de la croissance. Le ministère de la Transition écologique lui donne ce matin les chiffres des permis de construire en France. Le nombre de permis délivrés pour donc des logements neufs continue de baisser, moins 19,8% en mars par rapport à mars 2023. La faute aux coûts de construction qui ont augmenté et aux acquéreurs qui pâtissent de la remontée des taux. France Inter, 11h03.
France Inter présente Xi Jinping, le prince rouge, le podcast sur l'histoire réelle et méconnue du maître de la Chine.
Dominique André.
Qui connaît l'enfance dorée du président chinois? Comment a-t-il survécu à la révolution culturelle? De la mort de Mao au pouvoir suprême, parcours calculé d'un homme puissant qui, depuis 2012, dirige un sixième de l'humanité.
Xi Jinping, le prince rouge.
À télécharger sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Ce mardi, jackpot Euromillions de près de 160 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ. Montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
La bande est originale sur France Inter.
Il paraît.
Oh là 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 là, il y avait Nagui tout à l'heure, maintenant Nagui.
Il est revenu. C'est quoi lui? C'est pareil, lui et moi, c'est pareil.
Oui, exactement.
Mais oui, c'est comme papa et maman.
Ah oui, voilà. Frère, soeur préférée.
Oui, c'est bizarre.
Pour elle.
Vous savez qu'on vous entend?
C'est gênant tout ça. Mais ça, c'est gênant. Laetitia Gaillet, figurez-vous, sera là pile à midi. C'est ça qui est dingue.
Mais ce qui n'est pas sûr, c'est que la bande originale le soit.
Eh oui, c'est la bande originale avec Leïla Kadoumoudadi, avec Lisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Camille Lavard, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et notre invité Alex Lutz. Bonjour Alex. Nous allons évoquer ce nouveau film de Pascal Bonitzer qui est au cinéma demain et que j'ai adoré, je vous le dis immédiatement, comme ça on va gagner du temps sur...
Voilà, merci.
Et à ceux qui disent, oh, il y en a marre, vous recevez des invités, c'est toujours dans la flatterie, c'est toujours pour dire que c'est bien.
Alors, j'ai le droit de dire ce que je veux. Hein.
Petit 1, on a le droit.
J'aime pas l'émission.
Et petit 2, on n'invite pas les gens qu'on n'aime pas. Voilà,
hier, j'ai dit des saloperies sur Alex Lutz en même temps.
C'est vrai. Voilà.
Ouais. C'est bien, c'est ça dire que c'est complètement objectif aujourd'hui.
Voilà. Non, mais dire qu'Alex Lutz est un enfoiré, c'est une chose.
Ça, c'est
le
une
film
chose.
Est un très et bon film. Voilà, c'est ça la nuance. Voilà, tu vois. Il faut distinguer l'homme et l'œuvre.
Je vais compliquer cette phrase derrière.
Ouais, c'est ça. Reconnaissez donc ce morceau.
Daniel Dutron.
Oui. Gentleman cambrioleur. Il y a une réponse. Arsène Lupin.
Ok.
Est un grand seigneur. C'était le générique d'Arsène Lupin, Jacques Dutronc, bien joué. Et là,
Daniel.
Trop tard, Camille. Non, pas pour vous.
C'est exactement ce que j'avais fait. C'est Rémi Chal.
Véco. Gilbert.
Il avait reconfondu le chat à Star Academy. Ça peut être compliqué au niveau du reconnaissance.
Donc on est avec un cambrioleur, on est avec un voleur, vous avez compris le thème, non. Et là...
Mon cher parent,
Léla,
je vole. Oui, Léla, ouais. Louane, parce que j'ai pas compris le titre, c'est Je vole.
Je ne m'enfuis pas, je vole.
Une chanson de Sardou.
Oui.
Comprenez bien,
alors c'est pas exact, ce sont pas exactement les mêmes paroles.
Ah bon? Non.
Ah bon?
Sans fumer, sans alcool.
Bah comment ça?
Là au début oui, mais après ce sont pas les mêmes paroles.
J'en parle à
Michel. Écoute, j'ai une autre émission où je suis beaucoup sur les paroles. Je veux dire, c'est pas toujours.
Ah oui, c'est vrai.
Fais les confiances.
Hein. Au moins pour ça. Et là,
Tanguy.
What?
Pardon. Je suis parti tout seul. Mais si, si Renaud, petit voleur.
Exact. Petit tour
et puis j'allais dire la fille.
Barreau, garrot, une corde, à bientôt.
Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
Non. Camille. Olivia Ruiz, la petite
jolie,
voleuse.
La petite voleuse.
La petite voleuse n'a qu'une loi. Ce qui est à toi est à moi.
Vous êtes fort.
Mais en forme.
Mais je vois, ouais. Qui donc chante ce titre-là?
Leïla Johnny.
Il a travaillé avec lui.
Ouais. Ah.
Daniel Lavour, Tanguy.
Aznavour. Bien joué, Tanguy. Ouais.
Oh,
ouais. Oh, voleur.
Ah oui, ça c'est clair.
Voleur. Voleur, ouais. Un point pour Leïla, un point pour Camille, deux pour Daniel, deux pour Tanguy. Tout se joue là-dessus. Trois points et la victoire. Qui chante ça?
Wow.
Bah, mais il commence pas.
Si, si, ça arrive, attends.
Tu arrives quand?
Ah, deux secondes.
C'est Camille?
Ah oui, ça ressemblait à ses débuts de chanson.
Daniel? Salvador?
Henri Salvador, les voleurs
voilà.
De
l'eau.
Oh. De Jane. Victoire de Daniel pour un
voleur.
Quel homme. France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
J'ai admiré là.
Alex Lutz avec Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte dans ce film de Pascal Bonitzer, qui est une histoire vraie, je tiens à le dire dès le début, parce que moi je ne m'en suis rendu compte qu'après la projection. Je ne sais pas si je l'aurais vécu de la même manière en le sachant dès le début, mais c'est assez incroyable de savoir que c'est une base, en tout cas vraie.
C'est vraiment une base, puisque Pascal Bonitzer revendique vraiment l'idée d'avoir construit, cousu toute une histoire de fiction là-dessus. Mais oui, c'était un fait divers où un Egon Schiele, ce tableau-là d'ailleurs, a été retrouvé.
C'est pas les tournesols.
Les tournesols, et c'est d'ailleurs une œuvre hommage aux tournesols de Van Gogh, mais qui sont encore plus abîmés. Tout ça, c'est une évocation de une vision de la guerre et
c'est toujours plus abîmé chez Gonchi.
C'est de toute façon plus abîmé. Et donc ce tableau d'art dégénéré.
D'un peintre autrichien qui a été pris par les nazis.
Pris par les nazis.
Et un peu négligé même par les nazis.
Ah bah plus que négligé, c'est-à-dire que vraiment, ils avaient. Comme on sait, ils étaient sympathiques. ils avaient classifié l'art comme ils classifiaient tout, et donc
l'art dégénéré.
Et c'était ce qu'ils appelaient l'art dégénéré. Parmi les plus grands maîtres reconnues aujourd'hui. Voilà. Et donc, ces œuvres, ben, certaines ont évidemment disparu parce qu'ils ne les traitaient pas comme, comme les collections que se fantasmait Hitler avec son fantasme d'une espèce de musée millénaire. Voilà. Et donc, ces œuvres se sont baladées et donc, celle-ci s'est retrouvée dans une maison d'une famille très, très modeste à Mulhouse. Et voilà. Et le commissaire Priseur qui l'a découvert n'y croyait pas.
Là, on est encore dans la vérité. Là où ça devient une fiction, c'est la manière dont un cabinet d'experts dont vous faites partie s'empare ou se retrouve avec ce dossier grâce à une avocate locale jouée par Nora Mzaoui. Pardon, que vous retrouvez votre ex-femme qui est également experte, jouée par Léa Drucker, mais qui est par Mons et par vous entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Elle voyage énormément. On sent qu'on est dans des sphères de l'art.
Du marché de l'art.
Du marché de l'art où finalement on se demande s'il y a encore des émotions vécues devant une toile ou s'il y a un intérêt purement mercantile. Celle qui a des émotions, c'est Louise Chevillotte, qui est une stagiaire dans votre bureau, qui se sent totalement méprisé par votre manière de lui parler.
Et il faut dire que, bah oui, je suis pas très sympa au départ.
Oui, non, c'est comme, pas le plus sympa comme, là, nous, la... comme oui. Daniel avec ses assistants, c'est un peu
un
pareil.
Peu, oui, c'est ce que je me suis dit. Quand il a dit du mal de moi hier, d'ailleurs, quand je le croisais dans les couloirs, je me suis dit, ah bah tiens, c'est marrant, ça me fait penser au personnage.
C'est ça, un peu odieux. Et puis, elle est aussi en proie à des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes de reconnaissance dans sa place dans la société également, de problèmes avec le mensonge, c'est-à-dire qu'il y a le côté faussaire dans le tableau, il y a le côté
faussaire de la stagiaire. Ah ouais. Oui, mythomane, après perdu. Oh. Et puis, c'est une proposition de tableau d'une jeunesse paumée aussi à travers ce personnage-là, que je trouvais bien, parce qu'on voit bien comment elle se... Tout le monde se déplace dans ce film. C'est ça que j'ai, moi, beaucoup aimé quand j'ai lu le scénario, c'est que ce tableau... Ce tableau provoque suffisamment d'ambition qui sont sans doute pas les bonnes, mais très vite après de l'émerveillement, de l'étonnement, et on dirait qu'il se venge de lui-même, ce tableau, de son destin horrible.
En tout
cas,
tout
le monde en sort grandi. Tout le monde en sort grandi dans le film.
Il sort de l'ombre et il passe à la lumière, ce tableau, et cette révélation va révéler chacun finalement dans l'être humain qu'il est, dans la situation qu'il est, dans sa vie personnelle aussi.
Oui, et puis le tableau. Permet, alors modestement, c'est des petits déplacements chez Bonitzer, c'est pas des gros retournements, c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est pas grosse ficelle, mais chacun apprend à redevenir un peu un juste, quoi, au sens, pour faire la métaphore de la...
Avec
Deuxième Guerre mondiale.
Une citation et des compliments à Alain Chamfort que j'ai trouvé tellement bon,
super,
tellement bon acteur, tellement juste, tellement touchant. Bonitzer sent aussi et voilà, il est... Nickel.
Parce qu'on en connaît des chanteurs. Non, pardon.
Des acteurs-chanteurs qui sont ni bons dans un domaine, ni bons dans l'autre. C'est fou.
Bah, tiens, la semaine prochaine, d'ailleurs.
Alors que lui est bon dans les deux. On en parle jusqu'à midi et demi. Ce film est une réussite. Ouais. Vraiment très, très, très bon film. Très beau film aussi. C'est du cinéma à voir sur grand écran, évidemment, pour avoir toute la beauté, d'ailleurs, de la lumière reconstituée, que ce soit à Mulhouse, dans cette espèce de pavillon et avec des acteurs.
C'est vrai que la lumière de Mulhouse, faut l'avoir sur grand écran. Hein. Sinon, c'est gâché.
Mais finalement,
je suis d'accord avec Tagui. Ce qu'il en fait est très beau et d'ailleurs, ça s'éclaire même dans le film. C'est-à-dire que ils arrivent aussi avec leurs a priori. Lui, il est plein de cynisme.
Les gens simples. La phrase est dite. Les gens simples, en parlant de.
Oui,
de ce
il est un peu dédaigneux, machin. Et puis, je pense que c'est un personnage, moi, qui il est devenu cynique. Il croit plus en rien. Il s'émerveille plus de rien. Et c'est là-bas qu'il y a l'émerveillement. Ouais. C'est là-bas que la lumière se.
Et même au sein de sa propre boîte, hein, il croit en rien, pas à la promotion et à sa réussite personnelle aussi. Pierre Millon signe la lumière et le dire faute de ce film, le tableau volé. On en parle jusqu'à midi et demi avec Alexus. Mais d'abord, aussi. Et je sais que vous, personnellement, vous n'auriez pas abordé le sujet de la même manière.
Pas du tout. Non. C'est pas qu'on le voit, Alexandre. Mais moi, j'aime pas le marché de l'art. Voilà. Il y a que les riches qui peuvent parier. ça m'intéresse pas. Heureusement qu'on vend pas tout aux enchères comme les tableaux. Hein. Tu devrais te renseigner sur le jour où les milliardaires font leur shopping, ce serait l'enfer. Non, moi, je vais jamais au Franprix le mardi, c'est le jour où Bernard Arnault fait ses courses, fait monter le prix des raviolis à 300 000 euros le kilo. Non, merci. C'est quand même un délire, les enchères. Hein. Et tout le monde le fait, mais c'est pas aperçu de la même façon. Quoi. Quand des blancs gueulent des prix, c'est une salle de vente. Quand les arabes le font, tout de suite, c'est le souk. Moi, je vais vous dire, je préfère le souk. Voilà, c'est une meilleure ambiance, déjà. Je préfère les épices que les vieilles croûtes. Et aux dernières nouvelles, chez Sotheby's, personne t'appelle gazelle. Non, non. Mais ça manque, voilà. Un compliment, ça mange pas de pain. C'est allergique au gluten ou quoi? Le prix de l'art. Le prix de l'art, en fait, oui. Moi, ça m'écœure un peu. Quoi. Juste je sais pas, les tableaux qui s'envolent à des millions, ça m'écœure un petit peu. Et en même temps, ça me rassure. L'argent régit tellement nos vies qu'on le prend méga au sérieux. Donc, de temps en temps, c'est bien de voir un tableau Picasso qui coûte 800 appartements. Si ça te rappelle que wow, l'argent n'a aucun sens, en fait. Puis, c'est important de jamais objectiver la valeur de l'art. Hein. Ce serait horrible si on fixait des tarifs pour les tableaux comme pour des raviolis ou des vêtements. Quoi. Alors, un t-shirt, je comprends. Manche courte, c'est 20 euros. Manche longue, 30 euros. Marcel, prison à vie. C'est moche, les Marcel. Et en plus, apparemment, porter un Marcel, c'est un signe que tu bats ta femme. Oh. C'est pas moi qui le dis, Mais... comme 90% des conneries prononcées sur la planète, c'est les Américains.
Ah bon.
Le terme Marcel, chez eux, ça se dit un wife beater.
Ah, c'est bon ça.
Qui veut dire littéralement quelqu'un qui bat sa femme. Ah, ils appellent ça un wife beater.
Mais ils...
Ah bon ouais, c'est vrai. C'est pour ça que, par exemple, dans un tramway nommé Désir, Marlon Brando, il porte un wife beater juste pour signifier qu'il est bien. Voilà. Vous imaginez si on appelait tous les vêtements avec le nom des crimes commis par ceux qui les portent? T'as le malheur d'arriver au bureau avec tes nouvelles lunettes à la monture un peu épaisse. Et voilà, regarde-moi ça, ce connard avec sa paire de pédophiles. Ça peut dire que je comprends les tarifs pour les t-shirts, mais heureusement qu'on ne fait pas ça pour l'art, qu'on laisse ça aux enchères. Sinon, il n'y aurait plus le petit monsieur qui dit adjugé, hein, comme votre personnage, Alex Lutz. Il n'y aurait plus la madame dans Affaires conclues. ne me remerciez pas, Alex. Depuis le temps que vous cherchiez, je vous ai enfin trouvé un point commun avec Sophie d'avant. Voilà. Je sais que c'est plus elle qui présente Affaires conclues, mais moi je parle d'avant. Mais surtout, imaginez la déprime si on fixait des tarifs de l'art. Hein. Ok, une peinture avec du bleu et de la nature, ça vaut 10 000 euros. S'il y a une meuf à poil, 100 000. S'il y a un mec qui la mate, 500 000. Si grâce à l'audio guide, tu remarques que le mec, la moitié basse de son corps, c'est un bouc, en fait, 800 millions. Le chelou, c'est vendeur. Hein. Le meilleur art, c'est quand ça t'excite, mais tu devrais pas. si on faisait ça, tout le monde finirait par peindre la même chose, réaliser les mêmes films, écrire la même chanson, ce serait horrible. Alors que là, t'as un tableau adjugé à 5 euros, l'autre, c'est le PIB du Qatar. Moi, j'y comprends rien, j'adore ça. Moi, je préfère les choses quand je les comprends pas. Le jour où on m'explique la règle du hors-jeu, j'arrête le foot. Voilà. La seule règle que j'ai comprise quand même sur la vente d'art, c'est qu'un tableau vaut plus si son peintre est mort. Ça, c'est la base. C'est quand même horrible pour les artistes, quoi. Tu sais que le meilleur moyen de donner un coup de boost à ta carrière, c'est de crever, quoi. Ouais. T'es encore en vie, mais t'as aucune ambition, mon pote. Contrairement à moi, quand je me rends compte que cette chronique est partie dans tous les sens, mais que voulez-vous ? Il paraît que le chelou, c'est vendeur.
Merci. Vous êtes à la moitié le jeudi.
Exactement, à la nouvelle scène, à Paris.
Ça fait penser la vanne que tu as faite au film où il y avait Bouly Lanners qui était un peintre et justement on faisait croire qu'il était mort pour faire monter la valeur de l'œuvre d'art.
Avec McCain, c'est
oui,
ça
absolument.
Ah
oui, absolument. Vincent McCain. Pour en revenir à votre film, le film dans lequel vous jouez, Alex Lutz, le tableau volé, c'est vrai que l'émotion, et là aussi on peut penser à Yasmina Reza avec art, l'émotion n'est pas la même devant une toile pour les uns ou pour les autres. Ces gens simples à Mulhouse vivent avec ce tableau qui a subi la poussière, les émanations presque
du
de
chauffage.
La suie et du charbon, c'est ça.
Ouais.
Et
derrière le radiateur.
Qui était à côté, qui devient sale, noirci et sans créer aucune émotion. Et que lorsque les marchands d'art, ou les experts en tout cas, viennent, ils sont pris d'un rire nerveux. Mais ce rire.
Provoque un quiproquo d'ailleurs.
Ce rire nerveux, oui. Voilà, qui est mal vécu de la part des propriétaires, mais qui est simplement un côté. C'est incroyable, c'est vraiment
ça
l'original.
N'arrive qu'une fois dans la vie,
c'est
ça.
Ça arrive, oui,
c'est
ce que
de Léa Drucker.
Oui, oui, oui. Et elle est belle d'ailleurs, cette scène où il rigole et les autres se sentent. Mais c'est aussi comme dans la chronique qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire c'est tellement versatile la somme d'argent mise dans le marché de l'art et l'émerveillement, comment ça se déplace quand on sait que ça a une cote, quand on n'en a pas.
Ce que je voulais parler là, c'est que l'émotion n'est pas la même devant une toile. Deux personnes peuvent être, d'ailleurs, quelle que soit la valeur de la toile, l'une peut être émue et avoir le syndrome de Stendhal et se mettre à pleurer devant un tableau, et l'autre passer sans s'arrêter en disant ça me fait rien, ça me saoule.
Oui.
Que ce soit monochrome ou quelque chose de
bien
beaucoup
sûr.
Plus...
Mais là, c'est Nora Hamzaoui qui nous a raconté une anecdote où sa mère avait retrouvé ou avait trouvé une toile, alors je ne sais pas si elle l'avait trouvée sur un marché ou je ne sais pas quoi. Tout d'un coup, elle était persuadée que ça avait une cote et tout. Donc, elle l'adorait. Et Nora le raconte bien mieux, mais elle disait que sa mère disait « cette toile me parle » et puis elle m'émeut. Enfin bon, voilà, elle en faisait des caisses sur cette toile. Et puis donc, elle fait tout ce chemin de l'expertise de cette toile qui vaut que dalle. Et puis après, elle ne l'aimait plus du tout. Elle va dire « Non, mais je ne l'aime pas. » Et alors, je le raconte sans doute...
Comme un amant qui l'a déçu, quoi.
Je le raconte sans doute très mal, mais c'est vrai que tout d'un coup, c'est aussi... c'est pour ça que je trouvais ça intéressant dans le film aussi, quand il y a une cote, et c'est un peu triste, mais quand il y a une cote, alors ça crée une fascination où c'est difficile de garder son goût. Avec cet exercice-là, c'est difficile de regarder une œuvre et se dire attends, alors, est-ce que je l'adore ou c'est parce que je sais qu'elle est phénoménale.
La notoriété, c'est pareil.
C'est la notoriété. Voilà, c'est exactement la même chose.
Pour un individu, pour vous, j'imagine.
Il y a une forme de notoriété.
S'il y a des gens qui vous regardent,
mais non, mais c'est vrai que ça provoque quelque chose qui change la pupille.
Alors, ce qui se passe en plus, c'est qu'il y a tout le passif de cette toile, c'est-à-dire la manière dont les nazis l'ont prise, l'ont volée, la manière dont cette toile était négligée justement par ces nazis comme étant l'art dégénéré, comme l'a rappelé Daniel tout à l'heure, et puis de retrouver les ayants droit, et quelle est la loi, et qui en est réellement propriétaire, et qu'est-ce qui est reversé à celui ou celle qui trouve une toile dans un grenier et qui vaut une fortune, mais il y a quand même des héritiers qui en sont les propriétaires. Enfin, il y a tous ces mécanismes qui rentrent en jeu.
Il y a plein de questions morales qui se mettent aussi sur cette affaire. Et effectivement, bon voilà, art dégénéré, mais c'est bien la saloperie de l'exercice, c'est qu'ils s'en débarrassaient pas comme ça, et que pour ce qui est de cette toile-là, elle était une espèce de monnaie pour des petits collaborateurs locaux. Ça, il y en
pour
a
boire,
eu.
Même vous dites dans le film. Ouais.
Voilà, pour comme une espèce de pourboire dégueulasse. Et ça, c'est valable dans toutes les pages sombres de cette période-là. Mais évidemment, une fois qu'ils avaient fait leur sale boulot de collaboration ou de dénonciation, je sais pas quoi, ils allaient pas à la fin de la guerre dire j'ai une toile, elle est vachement sympa. Non, donc c'est intéressant parce que c'est dit dans le film, il se serait dénoncé. Donc du coup, ça devient une espèce d'objet qui ne peut être qu'un objet de grenier.
Mais ce que je voulais dire, c'est que le passif de cette toile fait que le propre patron dans votre boîte ne veut pas.
Du coup, c'est très compliqué à gérer. Je vous parlais de ça parce que c'est très compliqué à gérer légalement. Donc, effectivement, il y a tout le chemin à faire parce qu'il y a une loi sur les œuvres spoliées. Et puis, s'il y a des ayants droit, voilà. En même temps, il y a ce que dit Nora Hamzaoui très justement. Si vous achetez une maison en l'état, et de bonne foi, normalement, ce qui est dedans vous appartient. En fait, s'il y a des ayants droit, et ces objets-là dépendent d'ayants droit, et en plus d'œuvres volées. Et après, c'est tout
et
le chemin.
Spoiler une famille juive qui est aux États-Unis, la loi américaine n'est pas la même.
La loi n'est pas la même. Le marché de l'art se mêle là-dedans, puisqu'en plus, c'est une œuvre majeure. Et il y a juste ce petit gravier posé par le personnage de Nora Hamzaoui qui dit voilà, je sais qu'il n'y a aucun droit, mais mon client l'a obtenu en toute bonne foi. Voilà, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Et mon personnage dit oui, mais enfin, en même temps, c'est pas les règles, c'est pas les lois, c'est pas l'étude. Et à un moment donné, ça met tout le monde face à ses petites responsabilités pour peut-être faire le bien dans cette histoire. Et ça, je trouve, c'est toute la deuxième partie comme ça du film que je trouve très très belle, vers quoi ça s'envole. C'est pas des grands héroïsmes, mais quand même, ça répare un peu.
Mais là,
tout
dépend des Américains, c'est eux qui décident de donner ou pas un pourcentage.
Ça dépend vraiment de comment le travail de persuasion à faire auprès de cette famille. Qui, et ça reste un drame aussi pour cette famille. Ouais. Donc ils peuvent se dire aussi, j'en ai rien à foutre.
Qui traînent leur solitude, leur ennui dans une chambre à jouer à des jeux vidéo, à parler, à écouter de la musique, à fumer de la weed, peu importe en tout cas, mais qui s'ennuient, qui s'embêtent et qui ont une vie extrêmement réglée sur un job de nuit qui ne rapporte pas beaucoup d'argent. Et là, l'inquiétude notamment de celui qui vit seul avec sa mère veuve, si j'ai bonne mémoire, est inquiet du regard de ses potes en disant « si on apprend, et d'ailleurs il le dit, à un moment donné ça peut valoir 10 millions, là le regard des potes change
et d'ailleurs, les moments et ça crée où des tensions. » Les moments où il y a des tensions entre ses potes, où tout filet droit, les tensions tout d'un coup existent avec ce tableau. Il y a une scène où il se bagarre, où ce tableau est central, comme ça, comme témoin de cette espèce de bagarre absurde, juste parce qu'à un moment donné, son pote veut juste s'en approcher, mais nous, en plus, spectateurs, on se dit, ah, c'est pas vrai, ça vaut de l'argent. Et d'ailleurs, c'est fou ce que ça provoque, cette scène.
C'est Arkady Radev qui joue
Arkady Radev, alors
super
ce mec,
bien. Super
ce cool. mec, retenez ce nom, et c'est un immense acteur, un immense jeune acteur, génial.
D'une justesse émouvante.
Ouais. Ah ouais, fou. Et quand il y a cette bagarre, eh ben, moi je me souviens qu'il y avait des projections où les gens, ils sont embêtés pour la bagarre, mais tout d'un coup, parce qu'ils savent la valeur de ce tableau, ont peur pour le tableau.
Ouais.
Et c'est quand même fou, parce qu'ils ont peur pour le châssis, ils ont peur pour le machin, alors que les autres, ils se battent comme des lynx. Il y en a peut-être un qui va se prendre une chaise dans la gueule. Et tout le monde et je me souviens, dans les projections, les gens, des fois, je disais, oh là là, attends, s'ils le font.
Alex, génial, on peut avoir peur pour le tableau, parce qu'on peut avoir peur aussi pour ce qui pourrait être une très bonne nouvelle.
Pour lui, ça mélange tous les sentiments.
En disant, il risque de perdre des millions, simplement parce qu'il se bat avec un pote devant et qu'il va déchirer le tableau.
Et que si ça se trouve, il va déchirer le tableau.
Et que c'est la chance de sa vie qui peut aussi s'évaporer. Là aussi, il y a une autre intrigue.
Il y a une autre intrigue. Il y a le refus d'obstacle du personnage que joue Arkady, où lui dit, mais si ce tableau, ça a été ce destin, moi, j'en veux pas. J'en veux pas de ce truc-là. Donc lui, il est une âme, une pureté absolue. Et en même temps, c'est le chemin aussi que lui va devoir faire en se disant, allez, c'est pas grave, il n'y a pas d'argent sale, ça va faire du bien à une famille, tu vas réparer quelque chose et non, ça sera pas de l'argent maudit. C'est aussi cette notion d'argent maudit parfois dans des endroits où tellement mal privilégiés que ça devient un risque, un danger et que ce qui pourrait améliorer sa vie, même là, ça continue à faire peur. Voilà.
Alex Lutz avec Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte et donc cet acteur dont on va retenir le nom, Arkady Radev, et ce jeune acteur aussi que l'on découvre dans le film, Alain Chamfort.
Qui était formidable dans Don Juan, qui est sorti il y a un an et demi.
Ah, je ne l'avais pas vu.
Mais moi, il m'a
bluffé dans ce tableau volé, en tout cas. Il joue extrêmement bien. Signé Pascal Bonitzer, ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé un film de Pascal Bonitzer avec... autant de plaisir et autant de bonheur, en tout cas. C'est une réussite et c'est demain au cinéma. Voici Camille Lala.
Bonjour tout le monde.
Salut Camille.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amitié entre garçons. En effet, samedi soir, mon copain et moi étions à Roubaix pour l'anniversaire de son meilleur ami, Kevin. Alors, ça n'a rien à voir avec ce dont je vais vous parler, mais je précise que Kevin est indien et donc ne s'appelle pas vraiment Kevin, mais Calabasine, prénom que ses parents ont transformé en Kevin à leur arrivée en France pour faciliter son intégration à Roubaix. Et même si ce serait très tentant de faire des blagues sur un Kevin indien du Nord-Pas-de-Calais, j'en ferais évidemment rien du tout. Nous arrivons donc chez Kevin, et après l'avoir félicité pour son nouveau tuk-tuk avec aileron arrière, mon copain se jette dans ses bras et lui dit « Mais comme t'es beau mon kéké, avec ton petit débardeur de beau gosse là, mais ça te va trop bien !» Et là, instantanément, une voix dans l'assistance s'élève et hurle « Ouais, ça va, on vous dérange pas trop les pédés ?» Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette pulsion homophobe ? Pourquoi cette peur panique chez les mecs hétéros de toute marque d'affection de la part d'un individu du même sexe ? Mais vous croyez quoi, les gars ? Que si vous répétez cardigan 3 fois d'affilée, j'arrive à apparaître derrière vous ? C'est quand même dingue à quel point la masculinité toxique bousille tout. Parce qu'on entend souvent que l'amitié fille-garçon est compliquée. Mais l'amitié garçon-garçon l'est encore plus. Parce que nous, les filles, faire des câlins et des compliments à nos amis, c'est 30 à 40% de notre temps éveillé. Okay, c'est vrai. Moi, je suis tout le temps là. Oh, t'es un sublime, Margot. T'es rayonnante, meuf. Attends, c'est quoi ce boule, ma Alex? Mais ça te réussit grave au pilates. Même ce matin, en arrivant, j'étais là. Oh là là, ce blush, ça te fait un glow, mais juste incroyable. Et ses cheveux, mais je tuerais pour avoir les mêmes, en fait. Mais pourquoi tu me parles en même temps que moi? Quoi? Bah, c'est pas cool, je suis en train de te faire un compliment. Ah non, pardon, c'est un miroir. Mais vous imaginez un mec qui complimente son pote en lui disant que son jean lui fait un super cul. Ouais. En revanche, messieurs, quand vous commentez les meufs entre vous, c'est quand même extraordinaire. Hein, on dirait que vous êtes sur le front ukrainien, quoi. Ah, c'est une bombe, c'est un missile, c'est un avion de chasse. Ah ben de rien, Zelensky. Et quand il s'agit de passer à l'action, là, on bascule direct chez Ikea. Je vais la démonter, je vais la déboîter, je vais l'encastrer, je vais lui déposer la hotte et lui faire refaire le plan de travail. Et le phénomène est encore plus évident sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, quand je lâche souvent des coms gentils sous les photos de mes copines, quoi. Hein, que ce soit les selfies Tanga Sunset de Lisa, les selfies Tanga Sunrise de Mello, ou les selfies Squat Workout de Leïla. Oui, pour ceux qui ne savent pas, alors Leïla a un compte secondaire dédié à sa fitness routine pour obtenir un fessier de rêve en moins de 30 jours. Leïla Kadour, Bouti Défi. Abonnez-vous, vous verrez, c'est que de la contre-plongée. Mais voilà. Vous, messieurs, j'ai l'impression que vous auriez du mal à juste écrire « c'est beau » sous le post Instagram de votre copain Mathieu en maillot de bain. Mais sachez que cette masculinité toxique, c'est aussi vous qu'elle écorche. Et qu'on est très nombreuses à penser qu'un mec qui n'a pas peur de montrer l'affection qu'il a pour ses potes, c'est incroyablement viril et sexy, et donc attirant. Alors si vous voulez que les meufs vous câlinent, n'hésitez pas à câliner vos potes. Vous verrez que les câlins entre copains, c'est comme les moules au curry. De loin, ça a l'air dégueulasse, mais quand on les sait, on peut plus s'en passer.
Camille là-bas
sur scène quelque part. Sur
scène un jour peut-être.
Ah d'accord.
À 20h.
Bon, c'est tous ça. Les soirs de juin à l'Olympia, voilà.
Ouais, tout est complet.
Tout est complet.
À suivre, David Zivi, responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoilés entre 1933 et 1945, puisque sans mauvais jeu de mots, c'est la toile de fond quand même de ce film, Le Tableau Volé, film de Pascal Bonisère dont on va parler jusqu'à 12h30. Mais d'abord, la musique, le thème déjà du film. Très feutré, hein, très, très chic. Il est d'une froideur et d'une sévérité, votre personnage, qui fait peur. On ne l'aime pas beaucoup au début, hein, quand même.
Non. Bah non.
Il parle mal.
Il parle mal. Il a...
Ça fait penser à la série Succession. Je ne sais pas si vous l'avez vu cette
série. Oui, un petit peu. Tiens. Oui. Mais c'est des personnages intéressants à faire, quoi. Ou les personnages qui se... dont les masques tombent aussi. Mais c'est intéressant par rapport à la chronique. Je rebondis. Il est dans un marché devenu cruel, horriblement compétitif, plein de costumes gris et de bonhommes et de performances. Il a perdu un émerveillement sans doute de gosse qui a aimé l'art au départ.
Il n'aime pas spécialement les gens de sa boîte, il n'aime pas...
Il est dans une période où il s'ennuie.
Voilà,
Ce personnage était... Parce qu'on le voit un peu, il a des petites ironies, des petites salves, une écriture de Pascal Bonisère qui est quand même super. Et je pense que ce mec devait être un peu ironique. Un peu, voilà. Et si on fait pas gaffe, l'ironie, ça devient du sarcasme, ça devient du pas sympa.
Il en parle à un moment. Il parle de son enfance, il parle de tout ce qui est autour de lui.
C'est intéressant.
Ouais, de Xonru, Longemer, je fais un mea culpa, parce que je sais que les gens de Xonru, Longemer qui ont vu le film étaient choqués, parce que dans le film, je dis Xonru, Longemer, en plus, c'était une idée de moi. Puisque mes beaux-parents sont des Vosges, et je l'ai mal dit dans le film, et on ne l'a pas repiqué en post-synchro.
Voilà.
Et je sais que ça a fait une petite Louise Michelade là-bas. Donc je m'excuse infiniment.
Il va falloir y aller en projo spécial.
Xonru Longemer, il vient de là-bas, effectivement. Lui aussi, d'un tout petit milieu. Ah oui. Et il s'est construit, comme on se construit dans ces cas-là pour... pas forcément dans ces cas-là, d'ailleurs, pour y arriver, mais pas forcément avec peut-être trop d'armes aussi. Donc quand on arrive trop armé,
il a un rapport avec les femmes assez particulier, que ce soit le mâle alpha dominant avec Louise Chevillotte, ou au contraire, il retombe presque en enfance, c'est peut-être pas le meilleur terme.
En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il apprendra à devoir se débrouiller tout seul, surtout, ce que je trouve assez important, moi. Et j'aurais pas voulu justement qu'avec le film, et on en avait parlé avec Pascal, je voulais pas, moi j'ai refusé, mais alors des cas de fer, une quelconque ambiguïté avec le personnage de Louise. Il est sévère avec elle, il est en même temps sur des choses où il lui dit des choses quand même essentielles aussi sur son métier, c'est-à-dire que voilà, de bien faire son métier. Alors, il n'a pas la manière de lui dire, il ne s'y prend pas bien, il s'y prend de manière, effectivement, un peu plus que maladroite. Ouais. Mais en même temps...
Elle n'est pas très conciliante non plus.
Elle n'est pas très conciliante non plus. Elle lui fout bien dans la tronche à un moment
donné. Qu'est-ce
qu'elle
joue bien ? Qu'est-ce qu'elle
joue bien aussi ? Formidable, ouais. Louise Chevillotte. Et effectivement, dans un truc un peu de... Avec son ex-femme, jouée par Léa Drucker, génial aussi... Ben voilà, il est tombé dans tous les panneaux que les femmes s'occupent de lui. Il n'a pas besoin que les femmes s'occupent de lui, et c'est très bien.
Et Léa Drucker, elle a fait deux pas de côté. Elle a beaucoup plus de recul que lui, d'abord sur leur propre métier, mais y compris sur tous les rapports humains. Elle est presque là pour faire la traduction, l'interprétation, l'analyse de votre personnage auprès des autres, pour dire il n'est pas comme ça.
Elle le connaît sans doute bien mieux, bien par cœur. Elle connaît ses zones d'ombre.
Elle est maternante avec lui.
Non, puis elle l'aime toujours.
En tout cas, je pense qu'ils s'aiment toujours. Ouais. En tout cas, ils sont très, très amis. Et ce chemin va aussi lui apprendre à montrer un peu d'émotion et de faiblesse, et que c'est pas bien grave dans la vie, tant mieux.
On va pas dévoiler ni divulgacher l'un des climax justement de l'amour vu par le personnage de Léa Drucker et son évolution dans le film. Mais il y a un vrai moment où on fait waouh, ça je ne m'attendais pas à ça, et ça fonctionne. Le tableau volé signé Pascal Bonizer, c'est demain au cinéma, et David Zivi dans quelques instants à ce micro. Mais d'abord la musique dans votre vie, Alex Lutz. On va commencer en 78.
Allô maman, bobo. Maman, comment
l'histoire d'un mec en pleine forme.
Histoire vraie.
De quoi ?
Histoire vraie d'Alain Souchon. Il était au ski, il s'est fait mal au genou et son premier réflexe a été d'appeler sa maman en disant. Alors qu'il était adulte. Il était adulte en disant maman, je me suis fait mal au ski. Histoire vraie. Sauf que là, on est vraiment à la naissance d'Alex.
Absolument. Quand vous parlez de votre enfance, vous dites bourgeoisie, classe moyenne des années 80. On fait du tennis, mais on a une Peugeot 106. C'est comme ça que vous résumez un peu, vous posez le cadre.
En même temps, Peugeot était partenaire de Roland Garros.
Oui. Des parents. De génération de 68 qui a dans les années 80 pu développer un peu son et avec les codes des années, les codes un peu des années 80.
Maman prof,
papa dans les assurances, feu papa que j'embrasse là-haut et voilà.
Pas mal de femmes.
Pas mal de femmes, pourquoi ?
Pour être entouré de femmes, caractère bien trempé, vous dites... pas mal de femmes, je ne parle pas de votre tableau de chasse, mais de l'entourage, vous parlez de votre grand-mère, beaucoup.
Ma grand-mère, beaucoup, ma maman, mes deux sœurs, la personne qui s'occupait de moi, qui me cherchait à l'école,
enfant importante. Moyen à l'école, vous dites.
Moyen, c'est vraiment sympa.
Ouais, mais parce que c'est dur en fait, l'échec scolaire.
L'expression de ma mère la plus récurrente était ton foutu dossier scolaire. Ça vous donne une idée de mon niveau à l'école.
Ouais. Et elle s'inquiétait, elle disait qu'est-ce qu'on va faire de toi ?
Pas du tout. Non, elle me disait tout le temps ce foutu dossier scolaire, tu verras ce foutu dossier scolaire. Et elle a eu raison. Parce que au moment du bac, où je crois que j'ai eu 9,75, les 0,25, ils ne les ont pas donnés. Et elle m'a dit, ça, tu vois, c'est ton dossier scolaire. Elle avait raison. Elle avait raison.
Là, j'ai vu vous avez la musique.
Là, j'ai vu Catherine, là.
Ouais, c'est je peux te dire que le dossier scolaire... Elle avait vraiment raison. Mais en même temps, elle s'est battue comme un tigre, comme une tigresse, pour que ça avance, que les profs voient aussi que j'avais un côté plutôt artistique et qu'il fallait le laisser quand même un peu s'épanouir.
Vous le viviez comment ? Parce que vous dites dans les interviews que l'année que vous avez préférée, c'est l'année où vous avez tout raté.
J'ai tout raté. J'ai raté le BEPC, j'ai raté ma troisième, j'ai raté la piscine, j'ai raté le piano, j'ai raté tout ce qui était ratable.
L'équitation.
Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas rater sa vie?
Je me souviens d'une conversation de ma maman, je pense pas qu'elle s'en souvient. Elle était avec mon beau-père dans sa chambre, ils étaient au lit en train de lire, je pense le soir ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai juste entendu, parce que j'avais tout raté, je crois, on va quand même dire oui pour la mobilette, je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. Et je trouve ça super mignon. Et donc, effectivement, j'ai eu cette mobilette, et ça a été...
C'était mieux à l'école, après.
Ah ouais, tellement... Bah, en tout cas, oui rassurer, plus on m'a donné de la liberté, mieux ça allait. Ouais.
Rassurer les parents qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas rater sa vie quand on donne le sentiment de tout rater quand on est ado?
Bah surtout que c'est pas grave, c'est pas si grave, je trouve. Moi je milite pas tellement, je suis pas un... mais c'est vrai que les je trouve qu'on est dur avec les jeunes, quoi. On est vraiment pas sympa en ce moment avec les jeunes, et puis on se rend pas compte, on n'arrête pas de leur dire que tout est noir, que tout est dramatique, que pile ils perdent, face ils gagnent pas. Pendant le Covid, je nous trouvais exécrables avec eux, exécrables. Je nous trouve pas encourageants, alors qu'ils sont super, ils sont bagarreurs, ils ont des idées, ils sont brillants. On n'arrête pas de dire bêtement qu'ils sont collés sur leurs écrans, alors qu'ils y font des trucs super, que nous, on n'arrive pas à s'en sortir avec nos trucs. Faut juste leur faire confiance, leur dire tout ira bien, surtout leur prendre la main, c'est bien la moindre des choses, de nous regarder le nombril et de nous occuper d'eux. Ils sont super, non?
En 96, Alex Lutz, vous écoutiez...
Oui, mais j'avais plus trop d'idées. Mais ça, j'écoutais. Tout d'un coup, on a une espèce de sensation gangsta qui me ressemble pas du tout, en fait. Mais...
Ouais, on se dit gangsta. Wow, non, c'est pas. On va se calmer. C'est gangsta chic, hein.
Gangsta chic.
C'est l'orinil. C'est l'orinil, ouais, ça va.
Pas bien.
Non, pas bien.
Pas bien, loupé. Le prof de techno qui essaye de mettre un baggy. Ouais, mais j'écoutais ça, quand même.
Et à cette époque-là, c'est le coup de la pomme.
Ouais.
C'est votre compagnie que vous créez.
Théâtre.
Vous montez plein de spectacles avec cette compagnie, une façon quoi de se dire que vous êtes aux commandes.
Alors attendez, il y a mon producteur qui vient de m'envoyer un texto. Bah alors, qu'est-ce que j'ai encore pas bien fait sur cette... Non, c'est Xonru Longemet. Grand Dieu. Alors,
vous l'avez bien prononcé dans
le film. Fait Xonru Longemet, c'était ça. Et dans le film, j'ai dit Longemet. Bon, flûte. La prochaine fois, je dirai Épinal dans le film. Et je suis désolé.
Donc, double excuse aux habitants. Qu'on appelle comment d'ailleurs les habitants de.
Les Longemarins.
Oui, on va chercher le gentilet.
En tout cas, ça me fait de la peine. Je leur ai fait de la peine. Bon, et alors, du coup, nous.
On monte sa compagnie parce qu'on.
On monte sa compagnie, théâtre.
Voilà, parce qu'on veut être.
T'es pas obligé de
tranquille.
Parler comme ça non plus.
Mais parce qu'il dit on.
Parce que. Oui, parce que je voulais.
Alors, on a un garçon.
Comment ça se passe?
Et on passe du gangster en honneur.
Eh ben, j'ai fait. Oui, pour être autonome, pour faire mes trucs, pour. C'était super. Comme ça, je faisais mes affiches, j'écrivais mes spectacles, je faisais mes.
Mais ça, c'est parce que personne ne vous proposait quelque chose qui vous intéressait, que finalement on devient autonome. Oui, non, mais c'était... on se dit, je vais le faire moi directement, plutôt que d'attendre quelqu'un.
Ouais, c'était, je me disais, oh là là, je voulais faire ce métier, et je voulais que ce soit un métier. Donc je me disais, il faut quand même que je gagne des sous avec ce truc. Bon, vu mon parcours scolaire, je m'étais un peu dit la même chose sur les grandes écoles de théâtre, j'y allais pas avec beaucoup la win, je crois. Mais je me dépatouillais bien en pondant mes propres œufs.
Donc on pense à quoi? Au stand-up aussi, en disant je peux faire un seul
en scène? Non, là c'était vraiment du théâtre contemporain, du Beckett, du Brecht, des machins.
Non, mais
j'ai adoré
vous
ça.
Avez
et
glissé
après,
vers le
one-man. Et après, oui, j'ai découvert par des potes que je salue, Sébastien Bisotto, qui est à Strasbourg, qui m'avait engagé pour faire mettre en scène son. Il avait un duo d'humour. Et il m'avait demandé de les mettre en scène. Et c'est comme ça que je suis un peu allé plus vers le café de théâtre par la suite. Ouais.
En 2009.
Non, oui, mais je voulais donner un côté un peu strict à cette...
Ah ouais, c'est réussi, ouais. Cette carte d'identité. On est à ça du trafic de drogue, hein, il y a un moment. C'est...
Waouh.
Eminem dans les oreilles d'Alex Lutz.
Ah ouais, je faisais du roller dans Paris et je mettais ça.
Yes.
Et je mettais ça dans mes oreilles très fort et j'aimais bien.
Et vous incarnez à cette époque-là au cinéma le fils d'un nazi. Dans OSS 117, Rio ne répond plus de l'excellent Michel Hazanavicius, avec Jean Dujardin, bien sûr.
Jean-François Alain, la signature.
Ouais, Jean-François Alain, la signature, absolument, avec un rôle. Je sais pas, quand on est comédien, tomber sur un rôle comme ça.
Bah, j'y croyais pas. Il m'avait vu à la télé. C'est Jean Dujardin qui m'avait vu à la télé dans un sketch et il m'avait appelé. Et je croyais que c'était une blague. Et il vous a dit,
t'as une tête de nazi.
Non, mais il m'avait parlé du film et puis il m'avait dit, en revanche, voilà, c'est juste, mais je lui dois pour toujours. Hein. Mais c'est un
petit rôle,
un passe pour faire les essais déjà, donc ça c'était génial. Et puis j'ai fait les essais et c'est un souvenir émerveillé et trouillard parce que c'était mon premier rôle au cinéma, donc j'avais très très peur et en même temps ils étaient super bienveillants et c'est un souvenir. Et puis il a été un peu marquant, Heinrich Heinposti.
À fond, donc, voilà. À fond.
En 2019, c'est notre chanson, mon cœur,
qui nous on revient un peu plus sur mon univers musical.
Faut vous expliquer.
C'est la chanson de Guy Jamais, qui n'existe pas, mais que j'ai créée. C'est le film Guy, voilà, qui est l'histoire d'un chanteur de 75 ans que j'ai eu la chance de m'écrire, hein, finalement.
Ouais. Qui a eu du succès dans les années 70 et que l'on retrouve...
C'est comme un faux documentaire. Le film est comme un faux documentaire
génial,
sur lui.
Génial.
Et partant du principe que celui qui le filme a peut-être eu l'information par sa mère qui est décédée que peut-être ce chanteur populaire serait éventuellement son père. Et sa mère avait inscrit dans le courrier qu'elle voulait pas qu'il en fasse. Il se dit, après tout, je suis éditorialiste, j'ai bien le droit d'en faire un documentaire. Donc il fait un documentaire sur ce potentiel père et c'est un beau film, je crois.
Vous avez quand même chanté à Bercy, non ?
J'ai chanté pour. J'ai fait la première partie de M, parce que M adore le film. Et il m'a dit, tiens, tu veux pas faire la première partie en Guy et tout. Alors j'ai dit, d'accord, c'était trop bien. On a fait comme un faux téléphone où il demande à Guy s'il veut bien. Ça, c'était super, parce que dans le coup de téléphone, je fais allô en Guy. Et il répond, oui, c'est Mathieu. Et puis je dis juste, c'est chez Did, le fils, tais-toi, parce qu'il parle à sa femme. Et puis il accepte Bercy, et là les lumières s'allumaient, et c'était Guy Jamais sur scène. Mais pendant les répétitions, j'avais pas compris que Bercy c'était 15 000 personnes.
Ah oui.
Donc pendant les répétitions, de temps en temps, je faisais des pains, et mon guitariste Vincent Blanchard me dit, on va moins rigoler devant 15 000 personnes la semaine prochaine.
Je fais 15 000, n'importe quoi.
Et moi,
c'était 17 000.
Moi j'étais sûr que c'était.
Surtout
en fait, les concerts. C'est plusieurs villages. Hein,
surtout
quand même.
Les concerts de M.
Ouais. Mais c'était fou.
Tellement dingue.
Mais c'est un très, 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 très beau souvenir.
Et puis vous êtes récompensé du César du meilleur acteur.
Et lui de la musique.
Lui de la musique. Vous remportez le prix Lumière. Enfin, ça a été un film qui a été.
Vraiment
marquant, qui a été aimé.
Vraiment
très
chouette.
Très aimé, ouais.
Un beau chemin pour ce film.
On passe on passe rien du tout.
Tu as un petit café ?
J'avais encore envie d'entendre de la street.
Ah d'accord.
De la street.
Mais non. Oh, demandez-moi, je suis un vrai jukebox.
Ce soir dans Planète Rap, Alex Lutz, l'invité de Fred.
Ça serait vraiment rigolo.
Ça serait bon, Fred. Bah,
je vais appeler Fred.
On va présenter ça.
Je vais appeler Fred, je vais lui demander.
Ah bah ouais.
David Zivi nous a rejoint. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoilés entre 33...
Spoliés, parce que spoilés, on est sur...
C'est vrai, spoliés, tu as raison, Ouais. Entre 33 et 45, vous pouvez nous dire exactement en quoi consiste votre mission ? C'est un travail d'enquête ?
Oui, bonjour, donc c'est un service du ministère de la Culture, il faut le préciser, et nous sommes chargés d'essayer de répondre à des demandes de familles qui continuent d'arriver, qui cherchent des informations sur ce qui est arrivé à leurs aïeux, avec des œuvres qui ont disparu, qui ne sont pas localisées, et nous travaillons aussi avec les musées, les bibliothèques, sur des œuvres qui sont dans les collections publiques, et dont nous essayons de comprendre l'historique, le parcours, la provenance, pour peut-être identifier parmi elles des œuvres spoliées qui n'auraient pas dû entrer dans les collections et que l'on va pouvoir restituer.
C'est passionnant, c'est de l'enquête en permanence.
Ouais, c'est ça, mais...
Vous utilisez quel genre d'informations pour essayer de répondre aux questions qu'on vous pose ?
Alors, diverses informations, évidemment. Il y a un certain nombre d'archives. dans certains cas, les pillages faits par les nazis ont laissé des archives. Dans certains cas, ils archivaient, ils inventoriaient ce qu'ils volaient et avec de très bons inventaires, de très bonnes photographies. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Et donc, on essaye de comprendre ce qu'avaient les gens avant la guerre. Et donc, on va aller chercher, par exemple, des catalogues de vente aux enchères avant-guerre pour voir si l'œuvre est passée sur le marché. Ensuite, si on a de la chance, on va la trouver. On va essayer de retrouver le procès-verbal de la vente publique, qui est normalement une archive publique qui doit être déposée dans un centre d'archives, pour voir qui est l'acheteur. Et donc, si on a un nom d'acheteur dans les années 30, c'est peut-être le nom du propriétaire en 1940 qui sera peut-être spolié plus tard. Donc, voilà. Et parfois, on bloque. Parfois, on manque d'informations.
Comme le dit Léa, c'est une enquête. Vous avez quel moyen pour faire ce genre d'enquête? C'est simplement... C'est
les moyens des chercheurs qui sont à la fois des spécialistes de l'histoire, de l'histoire de cette période, des historiens de l'art, des spécialistes des archives, et on essaye de faire feu de tout bois de toutes les archives possibles. Il y a quand même un certain nombre d'archives, notamment les déclarations qu'ont faites les familles après la guerre, quand elles en ont fait. Tout le monde n'en a pas fait. Il y a des gens qui ont évidemment qui ne sont pas revenus, qui ont été assassinés, mais certains ont fait des demandes. Donc on a la mémoire de l'époque, de l'immédiat après-guerre. On a l'histoire des œuvres, et il y a quand même un certain nombre d'œuvres qui sont publiées. Le tableau du film, il était tout à fait connu. Il avait été exposé avant-guerre, il avait disparu. Et le personnage joué par Alex Lutz le dit à un moment, on ne l'avait jamais vu depuis juste l'avant-guerre. Et donc, dans ce genre de cas, on a des traces, on sait ce qui s'est passé, donc on peut le reconnaître. Après, parfois, on n'a pas de photographie des œuvres, on sait à peine qui étaient les propriétaires, et donc on est...
Si c'est dans des collections privées...
Juste, si j'ai le droit, je recherchais, mais on parlait
le nom de la ville.
Des femmes, non, importantes. Il y a Rose Vallant.
Rose Vallant. Ah oui.
Voilà. Et qui était, qui travaillait au musée du Jeu de Paume, et qui a travaillé avec le directeur du Louvre. Et même avant la guerre, ils ont déjà commencé, parce que ça sentait le roussi, à inventarier toutes ses œuvres. Elle a fait un boulot incroyable. Elle ressemblait pas à grand chose. Elle était tout le temps derrière ces capots allemands qui allaient faire leur marché. Et elle notait tout. Et il y a un livre magnifique qui s'appelle Je vais le retrouver. Et après, voilà, l'espionne à l'œuvre, Rose Vallant, l'espionne à l'œuvre. Et c'est passionnant sur un trajet de femme. Et sur comment elle a quand même, elle s'est bien
dépatouillée.
C'était une première monument girl, en fait.
On parle de combien d'œuvres d'art qui ont été...
Alors, on retient en général le nombre de 100 000 œuvres d'art volées en France uniquement, mais c'est sans doute sous-estimé. Surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les œuvres d'art. Les œuvres d'art, tout le monde n'en a pas, évidemment. Il y a 5 millions au moins, on est dans le flou complet de livres volés. 5 millions de livres, et puis le mobilier. C'est-à-dire que la spoliation, c'est d'abord autre chose. C'est le mobilier courant, c'est les chaises, les tables, les lits. Il y a 70 000 logements habités par des Juifs qui avaient été soit arrêtés, soit qui avaient fui, qui ont été vidés de fond en comble en France, presque 40 000 à Paris. Mmh. Et donc ça, évidemment, ça ne se retrouve pas. Enfin, on ne va pas retrouver
quelle est la nuance entre la spoliation et le vol?
Alors, la spoliation, aujourd'hui, c'est le terme un peu générique, qui recouvre des réalités assez différentes, en effet. Il y a le vol, le pillage très organisé, qui obéit aussi...
Le cambriolage, on va dire, basique.
Le cambriolage, ou le cambriolage très organisé par des services spécialisés allemands qui interviennent dès le début de l'occupation à Paris en juin 40. Ensuite, il y a ce qui est plus de l'ordre de la confiscation suivie d'une vente. C'est ce qu'appelaient les nazis et le gouvernement de Vichy l'arianisation. Donc, on confisque, on vend, évidemment pas au profit du propriétaire, mais au profit de l'État. Et puis, il y a toutes ces transactions un peu pas claires, vente forcée de la personne qui a besoin de vendre pour fuir, pour avoir un peu d'argent. Et donc ça ne laisse pas de traces. Les premiers exemples peuvent laisser des traces, la vente forcée beaucoup moins.
Mais la valeur de ces toiles n'existe que si elle est mise sur le marché, si elle est dans un salon, une maison...
Collection privée.
Ouais, une collection privée. Comment savoir ce que ça vaut et où c'est?
Alors, la question de la valeur, c'est important. Là, dans le film, on parle de ce Schiele qui n'a pas de valeur, qui a une valeur immense, justement, financière. Ces œuvres ne sont pas toutes des chefs-d'œuvre. Et le travail de recherche est tout aussi important pour des œuvres d'artistes qui n'ont pas une cote importante aujourd'hui, aussi importante que pour des œuvres de très grande valeur. Donc, je crois qu'il faut bien avoir ça aussi en tête. Et d'ailleurs, le travail que nous menons, que mènent les musées, que mènent des chercheurs indépendants...
Donc, il y a un devoir de mémoire, entre guillemets, quelle que soit la valeur, de restituer à ceux qui en sont
parce que ces œuvres sont des traces de ce qu'avaient des gens qui ont été pourchassés, qui ont été persécutés. Elles sont les témoins de ces derniers temps. Elles ont été vues, elles ont été choisies, elles ont été appréciées par ces personnes-là qui ont maintenant toutes disparu. Et donc ça, c'est une trace. Donc certaines ont une grande valeur et d'autres n'en ont pas. Mais le moment de la restitution, quand on peut y arriver, est tout aussi important. Et d'ailleurs, on le voit avec des livres qui ne valent en soi pas grand-chose. Ce ne sont pas des livres précieux, c'est des livres des années 30. Mais le moment de cette restitution, quand on récupère quelque chose de son grand-père ou de son arrière-grand-père, c'est important.
Alors, comment le récupérer, entre guillemets, quand quelqu'un vous dit « Non, non, c'est chez moi, ça a toujours été là, ce meuble, cette toile, ces livres, et qu'un enquêteur ou vos services disent « Mais non, on est dans le domaine de la spoliation, il faut restituer ces objets ».
Alors ça se passe différemment dans l'histoire, dans le film, vous l'avez rappelé, vous l'avez dit tout à l'heure.
Le jeune est très intelligent.
Ça se passe plutôt très, très bien. Voilà. Et c'est quand même assez rare que ça se passe aussi bien que le propriétaire d'aujourd'hui dise tout de suite « Non, je n'en veux pas, je ne veux pas de sang sur les mains. » C'est vrai que souvent, il y a des gens qui ont acheté il y a 5 ans, 15 ans, 30 ans, une œuvre, ils sont personnellement de bonne foi, et on vient leur dire qu'ils devraient le restituer. Et donc, ça, parfois, il y a des discussions entre la famille spoliée et le propriétaire actuel. Parfois, ça se passe assez mal. Et parfois, il y a des contentieux, parce qu'il y a en effet une loi qui protège les familles spoliées. Mais il faut aller devant le juge, et il faut que faire reconnaître par un juge en France, la spoliation, et ça annule la propriété, toutes les transactions qui se sont produites depuis la guerre. Donc, on vous annule la propriété et vous devez restituer sans compensation. C'est assez protecteur en France, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays, on n'a pas l'équivalent. Et si l'œuvre est dans une collection publique, je parle depuis aussi le ministère, aujourd'hui, et depuis plusieurs années, il y a cette aussi volonté de restituer, donc l'État ou les collectivités territoriales restituent régulièrement, pas assez sans doute encore, mais des œuvres qui étaient entrées dans les collections et qui n'auraient pas dû entrer dans les collections.
Par exemple, la Joconde, elle va rester en France ou elle va retourner en Italie?
Mais non, pas mais que sur cette page de l'histoire d'ailleurs, c'est-à-dire que ça se travaille aussi sur des pages de l'histoire plus... qui sont pas...
Plus anciennes d'ailleurs, enfin, on parle beaucoup des colonisations.
Et puis c'est la Grèce et l'Angleterre aussi, avec les
Parthénons.
Oui, c'est ça.
Alors c'est en effet des questions très très complexes et quand même assez différentes, c'est-à-dire que les circonstances historiques...
Et très politiques maintenant.
Très politiques aussi, les circonstances historiques sont très très différentes. Dans notre cas, nous rendons à des familles, ce qui est assez différent, tandis que dans les cas, le cas de l'Afrique, il y a eu des restitutions au Bénin, on rend à des États, donc c'est aussi des relations différentes. Donc on avance en effet sur ces différents chemins en parallèle, en prenant en compte les circonstances différentes aussi de l'histoire.
Merci David Zivi, responsable de la mission de la recherche de la restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 45. Merci beaucoup David. Voici Mélodie Fontaine. Ah, Mélodie.
Oh, ça va très bien. J'étais peu vêtue dans ma cuisine.
Ah bon?
Oui, je découpais sensuellement une échalote en discutant avec mon mec. Je lui disais que j'adorais l'échalote, ce petit légume bulbeux qu'on peut mettre à toutes les sauces. Ah, j'en suis friande. Quoi? Oui, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça nous arrive de parler de petits légumes bulbeux. Oh, je vais te l'éplucher, ton échalote. Oh, je vais te couper la tige. Ah oui, je vais te tailler la pulpe. T'aimes ça quand je te pèle le bulbe, hein?
Oh, ça va pas.
Oh, le bel oignon. Maman, ah, j'avais zappé ma fille de 5 ans qui mangeait ses gnocchis derrière nous. Oui, mes chéris. Et là, de but en blanc, comme les enfants savent le faire. Maman, pourquoi les filles, elles ont des zézettes et les garçons des zizi? Alors là, le cerveau, c'est vice-versa. Hein. C'est tout le monde court dans tous les sens, c'est Pompéi, là. Panique à bord, donc ça répond comme ça peut. Hein. Écoute, maman, elle est fatiguée, d'accord? Elle répète un texte, elle doit écrire une chronique. En plus, elle doit changer la couche d'un vieux monsieur avec qui elle travaille. Pourquoi le vieux monsieur, il a des couches et pas les bébés qui ont des couches? C'est une autre question, ma chérie. C'est que le monsieur, il est âgé et que les personnes âgées font leurs besoins quand ça leur chante. On croit juste les doigts pour que ce soit pas pendant l'émission. Donc, les zizi et les zézettes. Alors, quand les hommes ont commencé à marcher, je suis pas super précise avec les chiffres, hein, mais je dirais 1 ou 2 millions d'années, ils partaient à la cueillette, tu vois, et à cette époque, personne n'avait zizi. Là, il y en a un qui ramasse des baies, des quacoubées, hein, pour parler de mariage. Et soudain, il y a une espèce de bestiole de l'espace, je te dis pas le nom parce que ça n'existe plus aujourd'hui, heureusement, mais ça a des petites pinces, tu vois, et elle commence à tirer sur les lévrioles. Mange tes brocolis. C'est quoi des lévrioles? Des lévrioles, chérie? Bon, tu vois les trucs rouges en dessous des becs des poules, là? Bon, t'imagines ça dans ta culotte, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une poule, c'est un zizi? Non, une poule, ça a pas Zizi, c'est les coqs qui a une grosse... Bon, bref. Donc, le scarabée nidosaure, là, il tire sur les lévrioles et vlan, le hasard, encore lui, un coup de vent. Et là, comme quand tu bailles, le truc, il reste comme ça. Tu vois, un petit bout de chair qui pendouille. Tu prends du fromage ou pas? Bien sûr que tu peux prendre du fromage, mais arrête de me couper tout le temps. On dirait Nagui, après je perds le fil, c'est suffisamment compliqué. Donc, voilà, ceux qui sont allés à la cueillette, ils ont eu un zizi. Et celles qui sont restées au chaud dans la grotte, ils dessinaient sur les murs et elles ont gardé leurs zézettes. Mais dessine pas sur les murs, hein, c'est très, c'est clair pour toi? Et ça vient d'où les deux boules? Ah bon, les deux boules, tu demandes à ton père. Et le père, qui observait la scène de loin, qui arrive avec son classique, tu sais, Einstein disait que c'est pas compliqué. Si t'arrives pas à expliquer un concept à un enfant, c'est que tu l'as pas vraiment compris. Papa, ça vient d'où les boules? Alors, les boules. Écoute, quand tu pars en vacances, tu prends un sac ou des valises. Et ben tu... Bon, allez, ça suffit, finis tes kiwis. Bon, pour ma part, j'ai pas su expliquer le pourquoi du comment de notre appareil reproducteur, mais ma tomate échalote était exquise. Je m'en suis léché les babines. Mais pas les lévrioles.
Merci. Question soupeuse. Mélodie Fontaine.
Sur scène, en tout cas, elle sera au Festival d'Avignon du 3 au 21 juillet prochain.
Et à au point virgule, c'est ça, hein?
Oui.
Au point virgule, et elle travaille avec Thibaut Séguin qui a coécrit avec moi Guy. Donc elle est formidable, moi je dis.
Quelle belle promo.
Il y a de la ref. Ah, voilà. Le tableau volé avec Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzaoui, Louise Chevillotte, c'est au cinéma. Le film de Pascal Bonitzer. Vous l'avez tourné quand d'ailleurs, ce film?
83. Je l'ai tourné.
Il n'y a pas si longtemps.
Non, parce qu'il y a généralement. L'année dernière, quoi, disons. Enfin, une grosse année. Enfin, le temps que ça soit,
okay.
Que ça
soit cuit. C'est plus trop, quoi.
Non, je sais plus trop.
Il est perdu. Arkady Radef étant ce,
génial,
ce jeune.
Radef.
Il y a Laurence Cotte aussi, Laurence que j'ai oublié Scott, de citer.
Dans les films de Rivette, elle est formidable. Elle est formidable dans ce film.
Alain Chamfort, Marisa Borini, Mathieu Lucie, Ilyes Kadri, Vincent Nemeth, Alexandre Steiger, Doug Gurand, Peter Bonk, Adrien Devanne sont entre autres dans la liste de ce casting. Le film sort demain au cinéma avec évidemment Léa Drucker, Nora Hamzaoui en plus. Tanguy Pastureau, de quoi veux-tu nous parler?
Je vais vous parler d'une farine bio vendue en Bretagne et rappelée parce qu'elle contient du datura. C'est un hallucinogène extrêmement puissant, donc sympa. Grosse ambiance dans le Finistère actuellement.
On en parle après.
C'est des bonnes crêpes.
Voilà.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Hey, les industriels, si vous m'entendez, c'est grâce à vous. Oui, vous, les fabricants de matériel audio, d'énergie, de coton-tige. L'industrie est derrière chaque objet du quotidien. Et derrière l'industrie, il y a RS et son million de pièces livrables en 24 heures pour assurer la continuité de votre activité. RS, vous avez le savoir-faire, nous fournissons le reste.
Vouloir un enfant et avoir des jumeaux, oui, ça arrive. Découvrir qu'ils veulent faire la même école de commerce, oui, ça arrive.
Au fait, papa, notre école, elle est au Canada.
Oui, ça aussi, ça arrive. Parce que tout arrive dans la vie. AG2R, la mondiale,